L'Attique est séparée de la Béotie par la Phocide, contrée fertile avant qu'elle fût submergée. Mais alors, confondue tout à coup avec l'océan, ce n'était plus qu'une vaste plaine liquide. Là s'élève jusqu'aux astres un mont dont la double cime se perd au sein des nues. Le Parnasse est son nom. C'est sur cette montagne, seul endroit de la terre que les eaux n'eussent pas couvert, que s'arrêta la faible barque que portaient Deucalion et sa compagne. Ils adorent d'abord les nymphes de Coris, les autres dieux du Parnasse, et Thémis qui révèle l'avenir et qui rendait alors ses oracles en ces lieux. Jamais homme n'eut plus de zèle que Deucalion pour la vertu et pour la justice. Jamais femme n'eut pour les dieux plus de respect que Pyrrha. Quand Jupiter a vu le monde changer en une vaste mer, et que de tant de milliers d'hommes, de tant de milliers de femmes qui l'habitaient, il ne reste plus qu'un homme et qu'une femme, couple innocent et pieux, il écarte les nuages, ordonne à l'Aquilon de les dissiper, et découvre la terre au ciel et le ciel à la terre. Cependant le courroux de la mer s'apaise, le souverain des eaux dépose son trident et rétablit le calme dans son empire. Voyant au-dessus des profonds abîmes Triton, dont les épaules d'azur se couvrirent en naissant d'écailles de pourpre, il l'appelle et lui commande d'enfler sa conque brillante et de donner aux ondes et aux fleuves le signal de la retraite. Soudain, Triton saisit ce clairon creux et recourbé qui va toujours s'élargissant par d'obliques détours, ce clairon terrible qui, lorsqu'il sonne du milieu de l'océan, fait retentir de sa voix les rivages où le soleil se lève et se couche. Dès que la conque eut touché les lèvres humides du dieu dont la barbe distille l'onde et transmis en résonnant les ordres de Neptune, les flots de l'océan et ceux des fleuves l'entendirent et tous se retirèrent. Déjà la mer a retrouvé ses rivages. Les fleuves décroissent et rentrent dans leurs lits, assez larges pour les contenir tout entiers. Les collines semblent sortir des eaux, la terre surgit par degrés et paraît s'élever à mesure que les eaux s'abaissent. Si longtemps cachés sous les flots, les arbres découvrent leurs têtes dépouillées de feuillage et chargées encore de limon. Le monde était enfin rendu à lui-même. À l'aspect de cette solitude désolée, où règne un profond et morne silence, Deucalion ne peut retenir ses larmes, et s'adressant à Pyrrha. « Ô ma sœur, ô ma femme !» s'écrie-t-il. « Ô toi qui seule survis à la destruction de ton sexe, unie jadis par le sang, par une commune origine, et bientôt par l'hymen, que le malheur resserre aujourd'hui ses nœuds. » Du couchant à l'aurore, le soleil ne voit que nous deux sur la terre. Nous sommes le genre humain, tout le reste est enseveli sous les eaux. Je n'ose même encore répondre de notre salut. Ces nuages suspendus sur nos têtes m'épouvantent toujours. Infortuné ! Si le ciel t'eût sauvé sans me sauver, quel serait aujourd'hui ton destin? Seul, qui t'adorait à supporter tes alarmes? Qui consolerait tes douleurs? Ah, crois-moi, chère épouse, si la mer t'avait engloutie sans moi, je t'aurais suivie, et la mer nous eût engloutis tous les deux. Ne puis-je, à l'exemple de Prométhée mon père, faire naître une nouvelle race d'hommes, et comme lui, souffler la vie à l'argile pétrie de mes mains? Nous sommes, à nous deux, les seuls débris de l'espèce humaine. Les dieux l'ont ainsi voulu. Ils ont sauvé en nous un modèle des hommes. Il dit, et tout de pleurer, résolu d'implorer le secours des dieux et de consulter l'oracle. Ils se rendent sur les bords du Céphise, dont les flots, limoneux encore, coulaient déjà dans leur lit ordinaire. Quand ils ont arrosé de son eau sainte leur tête et leurs vêtements, ils dirigent leurs pas vers le temple de la déesse. Le faîte était souillé d'une mousse fangeuse, et le feu des autels éteint. Dès que leurs pieds ont touché le seuil du temple, prosternés l'un et l'autre la face contre terre, ils baisent le marbre humide avec une sainte frayeur. « Si les dieux, disent-ils, se laissent fléchir aux humbles prières des mortels, s'ils ne sont pas inexorables, apprends-nous, ô Thémis, quelle vertu féconde peut réparer la ruine du genre humain, et montre-toi propice et secourable au monde abîmé sous les eaux. » Touchée de leurs prières, la déesse rendit cet oracle. « Éloignez-vous du temple, voilez vos têtes, détachez les ceintures de vos vêtements, et jetez derrière vous les os de votre aïeul antique. » Ils demeurent frappés d'un long étonnement. Pyrrha, la première, rompt le silence et refuse d'obéir aux ordres de la déesse. Elle la prie en tremblant de lui pardonner si elle n'ose outrager les mânes de son aïeul en dispersant ses eaux. Cependant, ils cherchent ensemble le sens mystérieux que cachent les paroles ambiguës de l'oracle et les repassent longtemps dans leur esprit. Enfin, Deucalion rassure la fille d'Épiméthée par ses consolantes paroles. Ou ma propre sagacité m'abuse, ou l'oracle n'a point un sens impie et ne nous conseille pas un crime. Notre aïeul, c'est la terre, et les pierres enfermées dans son sein sont les ossements qu'on nous ordonne de jeter derrière nous. Bien que cette interprétation ait ébranlé l'esprit de Pyrrha, son espérance est encore pleine de doutes, ou bien le doute combat encore son espérance, tant il leur reste d'incertitude sur le sens véritable de l'oracle divin. Mais que risque-t-il à tenter l'épreuve ? Ils s'éloignent, et le front voilé, laissant flotter leurs vêtements, selon le vœu de Thémis, ils marchent en jetant des cailloux en arrière. Ces cailloux, qui le croiraient si l'Antiquité n'en rendait témoignage, perdant leur rudesse première et leur dureté, s'amollissent par degrés et revêtent une forme nouvelle. À mesure que leur volume augmente et que leur nature s'adoucit, ils offrent une confuse image de l'homme, image encore imparfaite et grossière, semblable au marbre sur lequel le ciseau n'a ébauché que les premiers traits d'une figure humaine. Les éléments humides et terrestres de ces pierres deviennent des chairs. Les plus solides et les plus durs se convertissent en os. Ce qui était vaine conserve et sa forme et son nom. Ainsi, dans un court espace de temps, la puissance des dieux change en homme les pierres lancées par Deucalion et renouvelle par la main d'une femme la race des femmes éteintes. C'est de là que nous venons. Race dure et laborieuse, nous témoignons sans cesse de notre origine.